Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero au micro pour cette édition d'Escale, faire du transport un moteur du développement durable. À la veille de la première conférence mondiale sur le transport durable au Turkménistan, nous donnons un coup de projecteur sur le premier rapport du groupe de haut niveau des Nations Unies sur le transport durable. Avec Alain Floch, secrétaire général de l'Association internationale du transport public et membre du groupe, l'expert explique les composantes du transport durable et revient sur les recommandations principales de l'étude, y compris pour les pays en développement. Bonne écoute.
Il y a une définition sur laquelle on s'est mis d'accord et qui, au fond, inscrit le transport dans ce qu'on a vu plus globalement comme le développement durable, c'est-à-dire la volonté de laisser à nos générations futures un univers qui soit à la fois prospère sur le plan économique, qui soit socialement juste et qui soit de nature à protéger notre planète contre une multiple pollution qui aujourd'hui l'affecte. Et donc le transport durable, ça doit être un transport qui ne pollue pas ou qui pollue le minimum, qui soit accessible à tout le monde, dont le prix d'accès soit abordable, qui soit aussi de nature à désenclaver les gens des univers où ils ne peuvent pas bouger, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important sur certains continents, c'est que les gens vivent dans leur village, ne peuvent pas en sortir à défaut d'avoir un moyen de transport abordable qui les ramène dans les villes ou dans les lieux où ils doivent se rendre pour travailler ou aller à l'école. Donc c'est ça le transport durable. En réalité, il y a, et ça c'est mon opinion comme représentant du monde du transport public, il y a des transports ou des modes de transport plus durables que d'autres. Et il est sûr que la voiture diesel en pleine ville avec un seul conducteur, c'est pas une forme de transport durable. C'est sûr qu'un transport collectif de qualité où les gens sont confortables et où les prix sont évidemment moindres que la voiture individuelle, ça participe du transport durable, de même que l'usage du vélo, la marche à pied qui est le meilleur transport durable. Donc toute l'idée, c'est transport durable et intégré, qu'on puisse ainsi utiliser différents modes suivant l'usage qu'on en a. Probablement une ville comme Copenhague peut être un exemple à suivre. Vous avez plus ou moins une répartition par car. Vous avez 25% de vélo, 25% de marche, 25% de transport public et 25% de voitures. Parce qu'il faudra encore des voitures quand même, ne fût-ce que pour approvisionner la ville. Mais ça, ce genre d'équilibre fait de Copenhague une des villes les plus agréables à vivre dans le monde. C'est vers ça qu'on doit aller.
Votre groupe consultatif a élaboré son premier rapport qui cherche justement à faire du transport durable un moteur du développement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment faire ? Quelle est cette articulation, le rapport entre transport durable et développement ?
D'abord, en transportant les gens, on leur permet d'effectuer leur activité. Donc, soit d'aller travailler, ce qui génère généralement de la valeur en plus, soit d'aller à l'école, ce qui est tout aussi important, c'est valeur pour l'avenir, mais c'est l'éducation, c'est aussi voir ses proches, faire des courses. Donc le transport par lui-même n'est qu'un moyen, mais il permet de faire un certain nombre de choses. Et quand on n'a pas de transport, on ne peut pas faire ces choses-là. Donc quelque part, le lien entre développement des pays et le transport est presque immédiat. Alors le problème, c'est qu'il faut organiser ce transport. Je pense que, donc on parlait dans certains continents d'un manque d'accessibilité. Donc l'accessibilité, c'est le fait de pouvoir aller faire ces activités, mais c'est aussi de pouvoir le faire dans des circonstances qui sont confortables. Et certains continents connaissent, vous savez, ce qu'on appelle le transport informel, c'est-à-dire des milliers de petits opérateurs, bus généralement extrêmement polluants, qui se battent pour transporter les gens dans des conditions où ils sont traités comme des sardines dans une boîte à sardines. Et donc tout le travail qu'on essaie de faire, dans ces continents notamment, c'est d'organiser le transport de façon régulière, confortable, efficiente. Et ça, c'est des choses que, par exemple, des villes comme Cape Town ou Dakar en Afrique se sont saisies de ce sujet et parviennent aujourd'hui à progressivement transformer toute cette nébuleuse de petits opérateurs en transport organisé, efficace, et dont on voit qu'ils contribuent au développement des villes en question.
Vous évoquez là des situations qui concernent notamment les pays en développement. En l'occurrence, en Afrique, c'est l'un des principaux défis en Afrique.
Ce défi de l'organisation du transport se pose aussi dans certaines parties de l'Asie. Il s'est beaucoup posé aussi en Amérique latine. Donc je veux dire, dans tous les pays en voie de développement, on sait bien que le transport est indispensable. On laisse faire le marché de façon un peu anarchique et on aboutit à ce système du transport informel qui n'est pas optimal à plusieurs égards. Donc je crois qu'effectivement, dans le monde en voie de développement, il faut passer par le transport collectif organisé. Et ça suppose, évidemment, d'abord un appareil institutionnel qui regarde la mobilité au bon échelon territorial. Donc, je prends un exemple comme Mexico City, qui a 25 millions d'habitants, mais la ville intérieure n'en a que 9. Mais il faut évidemment prendre en compte toute la banlieue, parce que c'est 25 millions de personnes qui se déplacent tous les jours. Donc, il faut mettre en place des institutions dirigées par les politiques qui prennent en compte tout cet environnement. Et puis après, développe des politiques, à la fois planification, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est très lié à l'aménagement du territoire. Non. Où est la ville, qu'est-ce qu'on veut comme type de ville, est-ce qu'on veut des villes avec des grands dortoirs et puis une ville centrale mais qui est désertée le soir, ou au contraire, est-ce qu'on veut mixer les fonctions et faire en sorte que les gens ne travaillent pas trop loin de leur maison ou de leur appartement. Et puis après ça, on développe une politique de transport, parce qu'il y a quand même des flux qu'il faut organiser, et alors on les développe en utilisant l'ensemble des modes de transport. Alors, le transport public, généralement, c'est la colonne vertébrale du système. Mais c'est sûr que c'est pas suffisant. Il y a des tas d'endroits où on peut pas aller. Le dernier kilomètre est toujours difficile. Donc, c'est là pour ça que moi, je suis très militant de ce que le transport collectif s'investisse aussi dans le vélo, ce que j'ai fait dans ma vie. Mais j'essaye de le répandre dans la marche à pied, mais aussi dans le partage de véhicules, le car sharing, le riding, le taxi. Nous sommes très engagés dans le taxi parce que c'est cette nébuleuse, cet écosystème qui, sous l'égide des politiques, doit être organisé en telle façon qu'on perde pas trop d'argent en transportant les gens, où on soit efficace, donc que deuxièmement, il n'y ait pas trop d'émissions, parce que c'est quand même le drame de toutes nos villes, ce sont des grands égouts à voitures, et qu'on fasse des villes plaisantes à vivre.
Alors, ça suppose quand même aussi une allocation budgétaire importante. Et pour des pays en développement, comment justement est-ce que l'on détermine la priorité qu'on doit donner au transport ?
Ben, c'est sûr que c'est un des conflits de tous les gouvernants, entre faire du logement social ou abordable, qui permette aux gens d'avoir un toit, d'avoir des hôpitaux qui vous soignent quand vous êtes malade, et par ailleurs de faire des écoles où on éduque les enfants. C'est sûr que le transport paraît un peu moins prioritaire que ces trois grands. Cela étant, on sait aussi que quand une ville est complètement congestionnée, une ville est polluée à outrance, comme des villes comme Pékin, on sait aussi qu'on tue énormément de gens, simplement indirectement, et que le transport par route est extrêmement dangereux. Donc la sécurité routière est un vrai enjeu. Vous savez qu'il y a 1 200 000 personnes qui meurent par an. C'est une ville comme ma ville Bruxelles, qui disparaît chaque année des tués des accidents de voiture. Donc, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. On ne peut pas faire semblant que la pollution et la congestion n'existent pas. Donc, je crois qu'une des grandes vertus de ce rapport et de l'initiative prise par le secrétaire général de l'ONU, c'est que, justement, de mettre le transport au centre des choses en disant on ne peut plus le négliger, on doit l'intégrer dans la réflexion globale d'aménagement du territoire, d'éducation, de housing, de développement économique, parce que c'est un levier qui peut transformer nos villes en des villes prospères, mais aussi des villes agréables à vivre. Évidemment, tous les pays en voie de développement ont du mal à développer toutes ces grandes infrastructures. Je crois d'abord qu'il y a beaucoup d'argent disponible. Et la Banque mondiale, par exemple, se plaint de ne pas avoir bon projet. Donc, elle a plus d'argent non dépensé que d'argent dépensé dans ses projets. Donc, il faut aider les pays en voie de développement à développer des bons projets. Créer donc les capacités intellectuelles de monter des bons projets qui sont bancables par les banques de développement, par la Banque mondiale. Et je pense que les pays en développement ont tout ce qu'il faut pour le faire. Mais ça suppose, comme je disais au début, une gouvernance de qualité, une éducation des ingénieurs, etc., pour faire de bons projets. Et alors, quand on a ce paquet-là, on peut aller développer des infrastructures.
C'est aussi un peu l'objectif du rapport, de proposer des solutions pour les différents défis, pour la mise en œuvre de réseaux de transport durable.
Oui, je crois, parce que si vous voulez, d'abord, il y a des problèmes universels, mais il n'y a pas des solutions universelles. Donc, on doit chaque fois les adapter au contexte, sans oublier qu'on peut s'appuyer sur le savoir-faire et les bonnes pratiques d'ailleurs. La deuxième chose, c'est que très souvent, on pense que c'est l'État qui doit tout financer. Et donc, on pense subsidiation, on pense investissement par des subventions et des choses de ce genre. En réalité, il faut être beaucoup plus innovant dans le financement de tout ça. Bon, moi, je parle pour mon secteur, mais c'est souvent le cas. Quand vous faites une ligne de métro ou une ligne de train quelque part, vous savez, la valeur du terrain autour de la ligne monte immédiatement. Cette plus-value, aujourd'hui, on n'en fait rien. Eh bien, il y a des pays plus avancés sur ce plan qui ont créé des taxes qui captent une partie de cette plus-value qui permettent de financer l'infrastructure. Donc, la même chose, les voitures rentrent dans la ville. On peut faire payer les voitures pour rentrer. D'abord, ça va réguler l'accessibilité à la ville parce qu'il y a des transports inutiles qui vont disparaître. Mais deuxièmement, l'argent qu'on collecte, on peut le mettre pour développer le transport plus partagé. Et donc, je crois que l'idée de faire la technologie qui évolue fort aujourd'hui, qui nous permet d'être plus intelligents et plus efficaces. Le partage, l'idée qu'il faut quand même partager un peu plus ces ressources-là parce que l'espace est simplement rare et que l'argent est rare. Peut-être qu'on aura des voitures autonomes un jour, mais qui ne devraient pas remplacer point par point les voitures d'aujourd'hui, mais au contraire, permettre le changement du paradigme et de faire qu'on utilise le backbone du transport collectif, mais que pour d'autres types de transports, on prend des choses qu'on partage, ou on paye moins si on est partagé, on paye beaucoup si on peut. Donc il y a 1000 choses qu'on peut faire, et je crois que c'était ça la vertu de cette initiative. C'est de dire, arrêtez de procrastiner, agissez. Et c'est pour ça que les recommandations de notre rapport, d'abord, sont utiles, mais en plus, qu'elles doivent être maintenant, il faut garder le momentum, il faut négocier avec les États, et ça, moi, j'attends beaucoup de l'ONU, parce que je sais que l'ONU est dans la stratosphère, parfois, mais il faut entrer sur le terrain, et il faut parler avec les États et leur dire, arrêtez de vous plaindre, vous avez tous les instruments, il s'agit d'avoir un peu de courage, et l'argent est là, parce que l'argent, vous le créerez, vous le générez, c'est votre propre croissance qui va générer de quoi payer vos infrastructures et de quoi payer un transport collectif.
Alors, vous évoquez les conclusions du rapport, des conclusions que vous allez présenter à la Convention sur le transport durable qui aura lieu au Turkménistan. Pouvez-vous nous faire un tour d'horizon de ces conclusions? Quelles sont les conclusions principales?
Il y a tout ce qui tourne autour d'une formule que je trouve très heureuse, dont l'acronyme est malheureusement anglo-saxon, mais qui dit « avoid, shift and improve ». Ça veut dire qu'on doit travailler, par exemple, sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire pour réduire les déplacements. C'est bien que les fabricants de voitures veulent qu'on se meuve de plus en plus, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de déplacements qui sont inutiles. Pensez à Paris. Pour faire une caricature, tout le monde habite à l'est et tout le monde travaille à l'ouest. Ça n'a aucun sens. Donc, en planifiant les villes, on peut éviter un certain nombre de déplacements inutiles. Deux, le rêve américain de la voiture pour tout le monde et trois voitures par famille est un rêve qui va, au moins dans les villes, se fracasser contre la réalité, l'absence de place. On ne peut plus empiler les voitures. Donc il faut changer le paradigme. Il faut que, comme à New York ici, de plus en plus de gens utilisent le système de transport collectif et les autres modes partagés de transport. Le car sharing, par exemple, à New York est très très développé par rapport à d'autres pays. Et puis il y a tout ce qui est improve. Alors ça, c'est le rôle de la technologie qui, pour moi, est quelque chose qui nous rend possible un certain nombre de choses nouvelles, mais qui n'est jamais qu'au service de la vision que vous avez de la ville ou de l'unité d'agglomération. Et donc alors, il faut commencer par les premières choses. Il faut mettre en place une gouvernance de qualité, que j'ai dit, au bon échelle territoriale et qui a une vision intégrée et holistique de la zone dont on veut assurer le transport. Après, il faut que cette entité-là se fasse des plans de mobilité, qui étudient comment ça se passe et comment on devrait changer. Ça doit être en conjonction, de nouveau, avec les urbanistes et les aménageurs du territoire, parce que la ville se développe, si on a envie de la développer d'un côté, on ne peut pas non plus aller dire on va faire un quartier de bureaux, puis pas avoir de mode de transport pour aller, et dire voilà, ben les voitures se débrouilleront. Après, quand on a annoncé, on a fait des plans et des études, on peut énoncer un certain nombre de politiques de mobilité dans lesquelles on favorise un mode plutôt que l'autre. C'est là que viennent des choses comme le tolling price, où on empêche les voitures de rentrer, comme à Londres ou en Suède. C'est aussi là où on dit, bah, il nous faut des infrastructures, comment est-ce qu'on va les financer, où on cherche des modes de financement. Et puis après, on essaye de mettre en place des transports confortable et de provoquer par l'attractivité de ce transport confortable le transfert de la voiture. Parce que ça ne sert à rien de mettre les voitures dehors s'il n'y a pas d'alternative. Et tant qu'on n'aura pas une bonne alternative, les gens auront raison de dire « mais si vous voulez, moi je ne peux pas me débrouiller sans ». Donc vous voyez, c'est un long chemin et les pays en voie de développement sans doute n'ont pas pu consacrer tous les moyens à ça. Donc maintenant, il faut qu'ils fassent le socle minimum qui permet d'offrir une alternative à leur population. Et puis dans les pays développés, il faut arrêter de croire à la voiture. Il faut probablement un peu de bâton en disant « maintenant ça suffit ». C'est ce genre de choses qu'on doit faire. Évidemment, c'est un plan. Moi, je ne veux pas vous résumer en un plan tout ce qui peut être une politique de transport durable. Mais nos recommandations couvrent ça, c'est-à-dire l'aspect institutionnel, l'aspect véhicule propre, l'aspect quelle est la meilleure manière d'opérer les systèmes, quelle est l'hiérarchie entre les systèmes. Si vous avez beaucoup de monde, ben le métro et le train sont certainement utiles. Si vous en avez moins, c'est probablement le bus. Dans les pays en voie de développement, comme c'est cher, le métro, vous pouvez peut-être commencer par un BRT, c'est un système de transport par pneus, mais qui soit de haute capacité et protégé du trafic. Donc, il y a comme ça beaucoup de recommandations. J'invite tout le monde à les lire. Surtout, il faut que le nouveau secrétaire général poursuive le mouvement et mette le transport au centre des plus grandes préoccupations des Sustainable Development Goals qui sont maintenant la Bible de l'ONU.
Et c'est avec Alain Floch que se referme cette édition d'Escale, consacrée au transport comme moteur du développement durable. Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies que vous pouvez suivre sur notre page Internet et nos réseaux sociaux. Merci de votre fidélité. Rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence.